moitié séché. On sèche même les pains. Les pains, on va le monter en température au four pour perdre toute humidité. Comme un tam-tam, et on tape dessus, c'est vraiment croquant et cassant. Et on avait tout le temps dans l'armoire un sachet des pains séchés. Et après, on va tremper à l'eau ou au lait, et ça devient des pains tendres, et on les mange. Ouais. On oublie les choses simples.
Le goût du monde. Clémence de Navi.
Bonjour, bienvenue dans le goût du monde. Le pain, c'est de l'or le pain, frais évidemment, mais sec, dur, rassis, eh bien c'est une merveille aussi. Redonner vie au pain, c'est culturel, c'est essentiel, et c'est même un des emblèmes de la lutte contre le gaspillage alimentaire de plus en plus aujourd'hui. Le pain, c'est de l'or, il est sacré et rassis, il est bien plus présent qu'on pourrait a priori le croire, et il y a bien plus, sachez-le tous, que le pain perdu. C'est ce dont on va parler aujourd'hui, le pain rassis, le pain sec, le pain dur. Bonjour Karim Aïda.
Bonjour Clémence.
Vous êtes libanais, chef cuisinier avec Hassan Issa de la boutique à manger Les Mots et le Ciel dans le 15e arrondissement à Paris. Une table le jour, une table d'hôte le soir, avec toujours sur cette table du pain que l'on trouve tout de suite.
Oui, on a toujours du pain, comme je pense sur la plupart des tables, à part en Extrême-Orient. Le pain, c'est quand même un aliment essentiel qui vient accompagner tous les repas avec des traditions différentes. Chez nous, au Liban et au Moyen-Orient, le pain sert à la fois d'aliment, mais aussi d'ustensile, puisqu'on mange avec le pain. Il va remplacer très souvent les couverts. Donc on a vraiment besoin de ce pain pour certains plats qui sont adaptés uniquement au pain comme moyen de consommation. Donc c'est vrai que nous travaillons notre pain, nous faisons un pain maison, un pain minute, parce que c'est très très important. Et bien sûr aussi, ce pain parfois reste sur la table et il reste des morceaux de pain sur la table ou du pain sur la table. Et vous l'avez dit un peu, le pain rassis, on continue à l'utiliser, mais on a toujours entendu, moi j'ai toujours entendu depuis tout petit, qu'on ne doit pas jeter le pain.
Ça ne se gâche pas, ça ne se jette pas.
Voilà. Et enfant, je ne comprenais pas. En arabe, on disait haram, nos parents nous disaient haram, ce qui veut dire que c'est pas bien de le faire, c'est interdit, c'est même un péché de jeter le pain. Et je m'étonnais enfant parce que on me disait jamais que, c'est pas qu'on en jetait, mais que jeter la viande c'était haram, mais jeter le pain c'était haram. Donc le pain c'était quelque chose de très important, sans doute un des produits les plus importants sur la table, sans doute avec un lien au sacré, un lien religieux. Si on y pense, il y a le « donne-nous notre pain quotidien », petite prière dans la religion chrétienne. Et chez nous, véritablement, le respect, le sacré du pain, c'est quand même aussi la petite hostie, c'est une espèce de pain aussi que l'on va manger. Donc il y a vraiment un élément très sacré dans le pain.
C'est la première nourriture, le pain, de toute façon. On ne peut pas jeter cette première nourriture. C'est ce qui reste quand on n'a plus rien aussi souvent.
Tout à fait. Et là, quand il n'y a plus rien, ce qui reste, oui, c'est le pain, parce que ça se fait simplement avec des ingrédients qui sont assez disponibles, qui ne sont pas chers du tout. Et donc, c'est de la farine, c'est de l'eau. Ce sont des ingrédients normalement faciles d'accès et qui permettent de donner le minimum de nourriture et d'alimentation.
Le minimum vital. Vous avez parlé de votre enfance. Est-ce que vous vous souvenez de plats ou de préparations faites avec du pain, justement, du pain d'hier, du pain sec, du pain dur?
Mon souvenir le plus lointain de pain rassis dur ne rentrait pas dans une préparation. Et donc, ça m'a un peu amusé que vous me demandiez, vous me posiez cette question. J'ai été très, très jeune en internat. En internat, dans les montagnes suisses, donc on imagine tout de suite un internat merveilleux où tout se passe bien et où on a du chocolat chaud et des choses très sympathiques comme en Suisse, quoi. Bon, c'était pas tout à fait ça. On mangeait particulièrement mal. Je me dis parfois que je suis peut-être devenu cuisinier pour réparer ce que j'ai mangé enfant. Et là-bas, figurez-vous que dans cet internat, je crois qu'ils achetaient les restes des pains des boulangeries et les conserver toute la semaine. Et je me souviens qu'il y avait des grands pains comme ça, et qu'on avait, vous savez, ce couteau qu'on abat comme une trancheuse de pain pour couper le pain. Et quand on avait faim, on rentrait dans la cuisine de l'internat, et on se coupait un morceau de pain. Et quand le pain retombait sur la table, il se cassait en morceaux tellement il était dur. Et là, on n'avait qu'une seule chose, on ne pensait pas justement le préparer. Et puis en plus, on n'avait pas accès à la cuisine pour cuisiner, on était tout jeune. Donc on le mettait dans la bouche et il s'humectait petit à petit avec la salive. Et au bout d'un moment, on arrivait à le manger et à l'avaler.
Il a mauvaise réputation, il faut dire quand même, ce pain rassis. C'est interdit de le jeter, mais bien souvent, en fait, le premier souvenir qu'on en a, c'est il est tellement dur qu'on ne peut pas le manger et on ne va pas forcément penser à le cuisiner. C'est justement pour ça qu'on a décidé de faire cette émission autour du pain sec et du pain dur, pour lui redonner quelques lettres de noblesse. Je pense notamment à un souvenir d'une cuisinière italienne qui est venue nous parler dans Le Goût du Monde, la Cucina Povera, donc c'est la cuisine pauvre. Ça, c'est quand on traduit littéralement cuisine pauvre, Cucina Povera. Mais en réalité, c'est une cuisine très intelligente, très astucieuse. Et elle nous avait parlé, Alba Pezzone, d'une pizza de pain.
La pizza di pane, et ben c'est voilà, on n'a pas le temps. Première raison, la cucina povera sert aussi à ça, donc elle espiègle pour ça, ou j'ai pas assez d'argent pour m'acheter une pizza vraie, faite par un pizzaiolo. Donc, vous prenez du pain rassis, vous le faites gonfler dans de l'eau et du lait, puis vous regardez dans votre frigo et il vous reste des restes de fromage, des restes de charcuterie, etc., etc. Vous les hachez grossièrement, pas trop menu, pour qu'on ait quand même des morceaux et du goût. Vous mélangez ça avec votre pain qui a gonflé. Vous passez au four, un peu de patience, 180 degrés, 30-40 minutes. Ça croustille sur la surface, c'est moelleux fondant à l'intérieur. C'est un régal. Vous n'avez plus qu'à rajouter une petite salade à côté.
C'est tentant.
Ah ben les Italiens, oui, sont sur prenant là-dedans, moi j'ai, dans mes pérégrinations, j'ai trouvé aussi à un moment donné des gnocchis au pain rassis. Donc on part du pain rassis, pareil, on le mouille et en fait il vient remplacer la pomme de terre dans les gnocchis tout simplement. Donc c'est vrai que je pense que chaque cuisine a des pains différents, mais rassis et un usage du pain rassis différent. Mais il y a deux produits de pain rassis mais qui sont devenus des produits essentiels, c'est-à-dire pour lesquels on pourrait durcir un pain ou le rassir exprès. On a transformé le pain rassis en quelque chose, et puis finalement, ce quelque chose, je trouve ça génial, est devenu indispensable. Alors vous avez la première chose, bien sûr, bon, bah, c'est le pain grillé. On mange tous du pain grillé. C'est vrai qu'on peut le faire avec du pain frais, souvent c'est un peu dommage, mais quand on a du pain rassis, faire du pain grillé, c'est vraiment une amélioration, c'est une évolution-amélioration. Et l'autre qui est incroyable et auquel on ne pense pas, c'est la chapelure, qui rentre dans tellement de recettes. Comment on ferait sans la chapelure? Et la chapelure, à l'origine, c'est du pain qui a durci, qu'on a fait sécher et qu'ensuite on a réduit en poudre et qui va permettre de rendre des préparations croustillantes, de lier, de faire tant et tant de choses. Alors, dans mon pays, au Liban, on a beaucoup de plats à base de pain rassis. Et notre pain, vous connaissez le pain libanais qu'on appelle pain pita souvent en France.
Pain galette.
Voilà, les galettes sèchent très vite. C'est un pain qui, une fois qu'il est sorti d'un sachet en plastique, va sécher une demi-heure après à table. Donc il suffit de pas faire attention et vous en avez beaucoup. Alors bien sûr, on peut le toaster et le faire griller. Mais à une époque, toutes les familles laissaient leur pain rassis et le laissaient sécher à l'extérieur. Il va pas pourrir, il va juste sécher doucement, durcir. Et il est plus très sympathique à manger de cette manière-là. Mais on va en agrémenter plein de plats, dont certains qui ont pris le nom du pain et plus particulièrement du fait que ce pain, une fois qu'il est rassis, pour le manger, on l'émiette. Donc émietter en arabe, ça veut dire fatta, c'est le verbe fatta. Et fatta va donner deux recettes libanaises, l'une, ou du Moyen-Orient, on va dire plus généralement, l'une qui est la fattouche, qui est une salade, et l'autre qui est une catégorie de recettes qui s'appelle fatté, justement. La fattouche, c'est une salade mélangée.
Donc on
met dedans.
On va retrouver du pain émietté.
On met du pain émietté normalement rassis, à l'origine rassis dedans, qui va s'humecter avec le vinaigre ou le jus de citron, avec en fait la vinaigrette, l'huile d'olive, etc. Et les différents produits. Et on va pouvoir comme ça manger le pain. Et comme il a été sec pendant un moment, en plus il a un côté un peu croustillant, très sympathique. À tel point qu'aujourd'hui, tout le monde fait de la fattouche, enfin tous les Moyen-Orientaux font de la fattouche, mais il n'y en a plus aucun qui utilise le pain rassis. Ils utilisent du pain qu'ils font frire ou griller, de manière à avoir l'effet du pain rassis. Donc là, on va très loin.
On va se croustiller, en fait, voilà. Toaster, qu'on retrouve dans le pain rassis.
Voilà. C'est-à-dire que là où le pain rassis était l'usage, la recette a été créée pour utiliser du pain qui était abîmé.
Par bon sens.
Voilà. Et ben maintenant, on crée ce pain abîmé pour pouvoir faire la recette. C'est dire comment la cuisine évolue. L'autre, la faté, c'est la même chose. C'était tous les pains rassis. Il suffisait de les mettre au fond de l'assiette, de rajouter dessus quelque chose de très simple. C'est un plat du pauvre, c'est un plat de rue, c'est un plat de tous les jours. On mettait dessus quoi ? Un ragoût de pois chiches, juste des pois chiches cuits à l'eau, un peu de yaourt pour donner du goût, et vous aviez ce pain au fond, et vous mangez ça, et c'est très consistant, en plus avec le pois chiche, apport de protéines, avec le pain, bon, vous aviez un repas complet pour pas grand-chose, extrêmement simple. Et des plats comme ça, dans nos cuisines, il y en a beaucoup. Il y en a un, quand même, qui est très intéressant, parce que c'est pas un plat d'humain, figurez-vous.
Racontez-nous.
C'est un plat qu'on va préparer quand véritablement on n'a plus d'argent, mais c'est un plat de campagne. Donc en fait, vous aviez les gens avaient souvent des chiens de chasse notamment et de garde. Et quand ils étaient véritablement pauvres, ils n'avaient pas de quoi les nourrir. Et comme ils n'avaient pas de quoi les nourrir, ils n'avaient pas de quoi leur donner ni de la viande ni quoi que ce soit. Et quand ils n'avaient vraiment pas les moyens, ils prenaient le pain sec, ils le trempaient un peu dans l'huile. Et ensuite, il leur donnait, de cette manière, il leur donnait un peu de féculent, il leur donnait du gras avec l'huile. Ce plat s'appelait boumleh, et en fait, était une manière de nourrir les chiens quand on n'avait rien d'autre pour les nourrir. On voit bien que ce pain rassis, en fait, nous a servi à beaucoup, beaucoup de choses.
Oui, au quotidien.
Tous les jours.
Je pensais à Alba Pezzone, qu'on a entendu tout à l'heure, qui est un compatriote qui s'appelle Adriano Farano, qui a publié aux éditions de l'Épure le pain rassis avec plein de recettes, où il évoque aussi des vieilles recettes de salade de pain, la panzanella, les bruschetta qu'on connaît bien, qui sont des tartines qu'on faisait les bergers dans le centre de l'Italie, et puis les polpettes, les boulettes. En fait, ce pain s'intègre dans plein de préparations. Est-ce que l'utilisation de ce pain rassis, il est plus lié, selon vous et vos observations, à la campagne qu'en ville?
Je pense que naturellement c'est le cas, d'abord pour la bonne et simple raison, c'est qu'à la campagne on a moins l'habitude de jeter. Et je pense qu'en ville, aujourd'hui en tous les cas, on jette beaucoup et puis on a moins l'espace pour laisser le pain. Parce que le pain rassis aussi, il faut faire attention. C'est pas le pain, je l'ai laissé dans un sachet en plastique et 4 jours après, je le sors parce que là, il est plus rassis, il est pourri. Le pain rassis, souvent, c'est du pain qui a été laissé à l'air libre. Donc, il faut un endroit pour le laisser à l'air libre, le laisser suffisamment longtemps. Et parfois, dans certaines préparations comme celles que nous avons, il faut qu'il reste longtemps à l'extérieur. Sinon, vous allez être obligé, en fait, de lui créer les conditions pour être dur et croustillant, qui va être, par exemple, de le faire griller. Mais le pain rassis, oui, je pense que la campagne est un endroit évident pour ça. Après, je pense qu'à un moment, il y avait peut-être moins de pain rassis, parce que, et je parle plus en Europe et notamment en France, quand tous les boulangers faisaient un pain un peu différent, c'est-à-dire un pain qui restait bon 2 jours après.
Un pain de garde.
Voilà, pas le pain que vous achetez maintenant, et pour peu qu'il y ait un peu d'humidité dans l'air, 10 minutes après, c'est une espèce de caoutchouc, vous pouvez faire des nœuds avec. Pas ce type de pain, donc j'imagine qu'il y en avait beaucoup moins qui rassissaient. On peut tout à fait faire beaucoup de plats avec le pain, parce que finalement, l'ingrédient principal qui est la farine, se retrouve dans beaucoup de plats. Et en réalité, c'est ce qu'elle a fait avec la pizza. En réalité, qu'est-ce que ça a changé ? Ça a changé le fait que ce n'est pas une véritable pâte faite, mais les ingrédients sont les mêmes.
Absolument. D'ailleurs, il y a un boulanger à Paris qui s'appelle Benoît Castel, qui est à Ménilmontant. Donc Benoît Castel, lui, il est pâtissier et boulanger. Et chez lui, on peut trouver un pain qui s'appelle le pain d'hier et de demain.
J'ai une démarche dans mon travail de faire attention à la matière première. Ça veut dire d'épuiser la matière première. Il faut que cette matière, on l'utilise jusqu'au bout. Le pain d'hier et de demain, on réutilise en fait du pain, c'est-à-dire que là aujourd'hui, c'est de réincorporer avec une technique particulière, une crème de pain qu'on fait à partir de pain invendu, 30%, donc ce qui est quand même pas négligeable, qu'on réutilise dans un pain. Ce qui donne un pain très moelleux, c'est des pains câlins, hein, la mie elle est bien tendre, et une croûte fine et délicieuse en fait. Alors on prend ces pains, on les torréfie pendant assez longtemps, et puis on en fait une crème de pain. Et à partir de cette crème de pain, on repétrit de la pâte avec du levain et le troisième jour, on les cuit. Il y a tout un process pour réintroduire le pain invendu. Sur certains produits, par exemple sur le pain d'épices qu'on fait, on réutilise la poudre de biscuit ou de viennoiserie. Il y a un vrai process pour garder l'humidité avec ces techniques. Mais en fait, c'est des choses qui étaient faites depuis très longtemps. On a perdu, on est rentré dans une ère de... On va toujours trop vite. Mais au final, ce qui a du sens, c'est de justement d'utiliser la matière première jusqu'au bout, quoi. Chez mes grands-parents, quand j'étais enfant, on mangeait la soupe de pain, c'était pour pas gâcher. La baguette, mais c'est très titi parisien. Nous, on n'en fait pratiquement pas de baguette, on fait du pain de garde. Ça veut dire qu'avant, on achetait un pain et on le gardait pendant 3-4 jours. Et les pains de garde, s'ils sont faits avec des farines qui sont extrêmement de bonne qualité, ça se conserve hyper bien. Et puis après, il y a le pain perdu, on peut faire aussi des tartines de pain, enfin, il y a plein de choses à faire, quoi.
Comment ont réagi les clients quand ils ont découvert votre pain d'hier?
On a mis quand même du temps à le mettre en place, on a mis pratiquement un an. Et on sait qu'on a fait un bon job, déjà qu'on est content. Vous savez, quand vous goûtez quelque chose, vous avez le sourire, vous dites « Ah, c'est cool !» Et après, il y a un truc qui me fait tellement marrer aujourd'hui, c'est les clients qui rentrent dans la boutique et qui disent, alors qu'ils sont appropriés le produit, qui disent « Bonjour, j'aurais du pain d'hier, s'il vous plaît !» Et ça, c'est cool.
Du pain d'hier, ça ne s'invente pas. Et figurez-vous, Karim Haïdar, que ce pain d'hier, s'il n'était pas vendu, eh bien, serait utilisé à nouveau, remis dans le pétrin, et on en ferait encore une nouvelle fournée de pain d'hier.
Mais je crois qu'on peut toujours, justement, recycler. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on commence à parler du recyclage alimentaire, mais de l'ensemble des plats. Alors, pour le pain, bien sûr, c'est très intéressant, mais pour le reste des produits aussi. Et c'est vrai que, personnellement, pas pour une raison symbolique, même si la symbolique est très, très importante, surtout chez nous, dans le monde arabe, où on a beaucoup de pays qui appellent le pain « aïch », c'est-à-dire la vie. Donc, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Mais on jette très peu de pain. Et je vois bien que je jette très peu de pain, souvent, parce que il y a toujours un moyen de le réutiliser et mettre des morceaux de pain rassis dans la soupe, bah c'est tout simplement génial. Parce que mettre des morceaux frais ou des morceaux rassis, ça revient à peu près au même.
Les croûtons,
et c'est du pain rassis. Très très bon. Les croûtons sont des pains rassis. Donc, mais les gens ne savent pas faire. C'est-à-dire, vous rendez compte quand même, c'est quand même bizarre. On trouve au supermarché des croûtons nature. Et les gens, je suppose que les mêmes gens qui achètent des croûtons nature ont leur tranche de pain qui est chez eux. Il la jette à la poubelle parce qu'elle est vieille.
D'ailleurs, parlons des croûtons. Comment on fait un croûton nature? Qu'on pourrait même assaisonner un petit peu, d'ailleurs.
On peut assaisonner beaucoup le croûton. Bah, d'abord, on a notre tranche.
Je la coupe en petits morceaux. Je la mets dans la poêle.
On la met dans la poêle ou alors même, on peut même la faire griller au four si on veut pas rajouter de matière grasse. Et on rajoute vraiment tout ce qu'on veut dessus. On rajoute des épices, on peut rajouter des herbes. On peut même l'humecter de quelque chose et ensuite la faire griller. Si vous voulez qu'elle ait un goût d'huile d'olive à la truffe, bah, vous mettez un peu d'huile à la truffe dessus et après vous la faites revenir ou vous la séchez au four. Et là, vous avez vos croûtons. Beaucoup de gens aujourd'hui, moi j'étais étonné cet été, j'étais en vacances avec différentes personnes. Certaines achetaient des pains que j'ai pas trop l'habitude d'acheter, qui sont les pains pré-tranchés de marques très connues des supermarchés. Et là, je lisais sur un paquet de pains qu'il durait 60 jours. Alors un pain qui dure 60 jours tranché en sachet en plastique sans être au frigo, c'est assez grave. En fait, ces personnes-là ont fini par oublier qu'il y avait des boulangers qui faisaient du pain tous les jours, qu'on pouvait acheter un pain, le garder 2 jours, 3 jours, et qu'ensuite on pouvait le réutiliser, etc. On est sur une autre consommation de pain. Et je pense que c'est très, très important d'essayer d'aller le plus près possible pour acheter un pain qui est fait avec amour, comme... On vient de l'entendre.
Le goût du monde. Clémence de Navi.
Manawa zafadiam nawau, ritutulienan. Manawa zafadiam nawau, ribibi, fourne, tchunchu. Manao azafady aminao aho hitany malalako. Nandromba, namono, nandoro aho tsy nahay mikolokolo. Naka tsy namerina, nandoto tsy nanadio, nanjaka tsy nanaja. manao azafady aminao aho hitany malala. Fa olombelona adala aho tsy nitsinjo anao. Ianao no mamelona, ianao no manasitrana, ianao ny tontolo iainako.
Femme des Malgaches Lodje et Léonie Sam sur RFI. Bienvenue si vous nous rejoignez. Vous écoutez Le Goût du Monde, l'émission gourmande et curieuse de RFI qui explore les marmites et lit les coutumes et cultures nourricières. Aujourd'hui avec Karim Haïdar, notre complice et chef de la boutique à manger Les Mots et le Ciel à Paris, nous vous parlons de la nouvelle vie du pain dur, le sec, le rassis que l'on relève, pardi. N'est-ce pas Karim, depuis le début de cette émission? On parlait à l'instant de ce pain qu'on oublie, de ce pain rassis que l'on peut utiliser de manière très très simple. Quel est le goût de ce pain rassis? Après, ça dépend du pain, j'imagine.
Je pense que ça dépend beaucoup, beaucoup du pain. Enfin, ça dépend des pains. Vous savez, moi, la particularité, c'est quand on me parle pain, automatiquement, j'ai dans ma tête deux types de pains qui sont tellement différents que c'est assez difficile à dire. Donc, il faut que je re-rentre dans un des pains.
C'est ça, ce sont des pains au pluriel, quoi.
Voilà. Et déjà, là, le goût, la texture, tout est très différent. Parce que le pain rassis, c'est deux choses. Le pain peut devenir plus mou et peut devenir plus dur. Et c'est pas du tout pareil. Le plus mou vient souvent d'un mode de fabrication pas très extraordinaire, en tout cas sur des pains français.
Il a plutôt à vocation à devenir sec.
À devenir sec, exactement.
Sec et dur. Et du coup, est-ce que justement cette sécheresse du pain apporte une petite note
Automatiquement, vous perdez de l'eau, vous perdez de l'humidité. Donc quelque part, il y a une concentration
davantage
de goût. Donc de sel, bien sûr, mais une concentration de goût. Je pense pas que ce soit très salé, mais il y a une concentration du goût. Et je pense qu'on ressent plus le goût de la graine. Et quelque part, prendre un pain d'une autre graine que la graine classique, avec des rajouts de graines, avec des farines différentes, je pense qu'on sent beaucoup plus le goût sur du pain sec. Alors moi, le pain sec, je suis capable de le prendre. Enfin, quand j'ai faim, je prends des bouts de pain sec. Alors, c'est peut-être lié à mon enfance que je continue à essayer de faire fondre en bouche juste naturellement comme ça. Mais le goût, je pense que c'est un concentré de goût de pain. Nous, notre pain, donc nos galettes de pain, quand elles sèchent, c'est encore autre chose parce que elles durcissent vraiment beaucoup. Et comme il n'y a pas de mie et que c'est vraiment comme une crêpe, comme une galette, quand elle est dure, ça devient vraiment proche d'un chips, ça croque. Et en fait, c'est surtout la texture qui joue et qui devient très, très différente. C'est un élément de texture, je pense, plus que de goût. D'ailleurs, nos pains, moi, je trouve qu'ils n'ont pas de goût en soi. C'est des pains qu'on n'a pas nécessairement très envie de manger tout seul. Ils ont toujours besoin de quelque chose. Et en ce sens, quand ils rentrent dans une préparation, en tant que pain rassis, finalement, c'est pas quelque chose de tellement nouveau, puisqu'ils rentrent toujours dans des préparations. Alors qu'en France, vous mangez votre morceau de pain juste comme ça, éventuellement avec un morceau de fromage, mais on trempe pas le pain, enfin sauf pour saucer, ce qui paraît-il faut pas faire, mais si il faut faire, il faut bien sûr toujours
il faut
saucer.
Bien saucer, c'est délicieux.
Toujours saucer.
En tout cas, la plupart des pays du monde ont du pain, ou en tout cas quelque chose qui s'apparente à du pain et qui forcément va rassir. Je vous propose d'aller à nouveau vers une recette de poudre et de farine faite avec du pain rassis. C'est celle de la chef Alessandra Montagne, qui a son restaurant à Paris. C'est chez Nosso.
Alors, le pain ne se gâche jamais, bien sûr. Moi, ici, je fais plein de choses avec le pain. J'ai fait de la farine, je le laisse sécher doucement. Je le mixe très, très fin. Et cette farine, je l'utilise dans un certain pourcentage pour refaire du pain. Donc, j'utilise de la farine qui n'a pas été cuite, et j'utilise cette farine-là, je fais un mélange, et le pain est délicieux, je fais des crumbles, et je fais une soupe de pain qui est hyper, hyper bonne. Je la sers, cette soupe, soit comme un petit fond, comme un velouté, avec autre chose, soit je la sers avec des raviolis, je fais une mousse dans un siphon, enfin, je trouve plein d'astuces pour l'utiliser, donc tout le pain, il passe comme ça.
Comment vous faites cette soupe, alors?
Elle est très facile, alors c'est simple, on va mettre le pain très sec dans le lait, pour qu'ils reprennent un peu de vie, et tout ça, pour qu'ils regorgent un petit peu. Alors, dans une casserole, on va faire revenir des échalotes, des oignons, un petit peu d'ail. Ensuite, on rajoute ce pain dedans et on met un petit peu de lait ou un petit peu de crème, comme on veut. Après, on peut mettre les épices qu'on veut. Et une fois que c'est bien mijoté, on le mixe pour que ça soit bien fin. Et là, on a un velouté qui est super bon avec un petit gouailler, avec des échalotes, avec ce qu'on veut. Moi, la dernière fois, je l'ai fait avec des tranches de courgettes jaunes très fines, juste avec un petit peu de citron et d'huile d'olive, quelques petites pousses de cerfeuil, des petites fleurs de moutarde un peu jaunes. Et c'était super bon, c'était chaud, c'était beau. Et puis, en fait, c'était un produit qui allait à la poubelle.
Vous avez travaillé au réfectorio. Comment vous aviez utilisé le pain?
On a utilisé le pain pour mettre dans la boulette. Bon, on a pris du pain rassis, pareil, on l'a mis dans le lait et on a fait une boulette de volaille avec ce pain. Et en plus, ça augmente la farce. C'est-à-dire que si on avait un kilo de farce, on met 300 grammes de pain, on a 1,3 kg. Le pain absorbe en fait le goût de la viande. Il se marie avec la viande. Ça vient presque comme de la viande après parce qu'il attrape le goût de la viande. Du coup, ça donne un côté moelleux. La boulette n'est pas sèche quand on met du pain avec. Et là, encore une fois, pour utiliser du pain rassis, mettez-le avec des boulettes, dans la saucisse, tout ça, ça passe très bien, il n'y a aucun problème. Et c'est délicieux.
Je ne sais pas vous, mais moi, en tout cas, quand j'entends cette description de boulette qui prend le goût de la viande, j'ai très très faim.
Moi aussi, moi aussi. Et je pense que comme il me reste un peu de pain du repas d'hier à la boutique, je pense qu'en allant travailler, on va peut-être faire un plat qu'on appelle nous « hrro osbo », qui est un plat qu'on fait avec du pain rassis, des lentilles, des petits oignons qu'on a fait revenir, et on jette le pain rassis dans les lentilles et l'eau de cuisson des lentilles. Donc elles vont prendre l'eau de cuisson des lentilles avec l'oignon, un peu de mélasse de grenade. Voilà, et puis généralement on mange ça très très chaud, d'où le nom hrro osbo, qui veut dire en arabe « brûle-doigt ». Voilà, et on se brûle les doigts en mangeant ce plat qui est très très bon. Et là, j'ai une grande envie d'aller manger ça.
D'aller manger ça, je partagerai volontiers. En tout cas, on va juste préciser que pour faire cette farine de pain dont parlait Alessandra, il faut vraiment quand même avoir un mixeur pour en faire une chapelure très 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 fine. C'est même au-delà de la chapelure. On est vraiment dans quelque chose qui ressemble du coup presque au grain de la farine, un peu plus grossier, un peu plus gros. Et du coup, avec cette préparation et cette farine de pain rassis et de pain sec, on peut vraiment faire toutes les préparations, donc la pâte à pizza dont parlait Alba Petzon tout à l'heure, des gâteaux, c'est infini après les déclinaisons.
Oui, et puis je suppose aussi que si on ne peut pas mixer aussi fin, parce que nous, il nous arrive de faire des pains avec une farine extrêmement grossière, voire de la taille de la semoule. Donc même si on arrive à faire ça, on peut toujours faire un pain, quitte à rajouter un peu de farine encore pour lier et arriver à refaire un pain avec. Je suis sûr que ce serait très très bon parce que on aurait des éléments croquants de l'ancien pain dans le nouveau. Et ça ne peut être que magique. Ça donne des envies, hein, votre émission. Moi,
Là, on va partir vers l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal, le Togo, le Mali, où on prépare justement un dessert, un goûter qui est réservé pour les enfants, qui s'appelle le mbouraké. On mélange du pain rassis avec de la pâte d'arachide, donc la pâte de cacahuète. Et c'est Haruna Sow, le chef formateur du Refugee Food Festival, qui nous donne ce souvenir.
Oui, le mbouraké, comme à Dakar, on dit lek khalé, le goûter des enfants qu'on retrouve tout autour des gares. Ou sinon, si on part en voyage, il y a nos mamies qui nous font ça parce qu'ils nous donnent le pain rassis qu'ils ne veulent pas jeter. Le pain, c'est obligatoire. On ne le jette pas, c'est nous, c'est un synonyme de danger. Donc, c'est pour cela qu'on a inventé la recette mbouraké. Pour moi, c'est un souvenir d'enfance. Quand je partais au Mali, il y a ma mère et ma grand-mère qui le faisaient tout le temps pour moi. C'est une recette hyper simple qui est modulable. On peut le décliner dans plusieurs sortes. Ce qu'on a besoin dans le mbouraké, c'est d'avoir une pain rassis uniforme. Souvent, quand on les pile, il y a de gros morceaux qui restent. Après, il faut vraiment les tamiser pour les reprendre et les piler derrière pour avoir un truc uniforme. C'est une pâte de cookie, sauf qu'on ne va pas le cuire, cette pâte-là. Une petite astuce, c'est de saupoudrer un peu de coco torréfié et des feuilles de menthe, ça passe très bien.
Donc on va tous essayer ce mbouraké. Alors je dois vous dire, Karim Haïdar, que comme l'avait Roger Lasmoté, qui est un mondo-blogueur de RFI et togolais, me racontait qu'enfant il habitait à côté du lycée français et il se disait, C'était la rumeur que pour punir les élèves, on leur donnait du pain rassis à manger et que tous se mettaient à pleurer. Et que eux, enfants, se disaient que ben ce serait une trop belle punition pour eux parce que eux, ils savaient très bien comment manger ce pain et comment l'apprécier. On oublie souvent hein, que l'expression du pain rassis, c'est du pain sec et de l'eau, c'est une punition, souvent c'est associé et tout dépend de c'est comment on l'envisage.
C'est parfois la prison, hein. La prison c'est au pain sec, c'est le cachot au pain sec et à l'eau.
Au pain sec et à l'eau.
Mais effectivement, le pain sec avec l'eau, c'est sympa. Bon, quand vous avez que ça et que vous êtes au cachot, ça doit être assez pénible, mais c'est vrai qu'on peut en faire beaucoup de choses.
Survivre déjà, ça veut dire qu'on a quelque chose à manger.
Survivre sans aucun problème, et c'est avec ça qu'on survit. Après, c'est assez triste de le rappeler, mais le pain, encore une fois, est le dernier élément qui reste quand il n'y a plus rien à manger. C'est la dernière chose qu'on arrive à faire, où qu'on soit, et ça permet effectivement de survivre. Mais ce qu'on vient de voir permet de montrer que ça permet aussi de faire des choses gaies, heureuses, des plaisirs de repas et même des plaisirs d'enfants. Puisqu'en réalité, un peu de pain, même rassis avec quelque chose de sucré, va donner un dessert. Il y a un dessert comme ça qui nous vient d'Égypte et qui est utilisé un peu partout dans le Moyen-Orient, qui a une assez belle histoire parce que le pain qui est utilisé est un pain européen. Donc en fait, le pain européen est arrivé en Égypte par les ambassadeurs européens qui venaient là. Et dans le palais du sultan qui était à l'époque, il y avait le sérail où sont tous les ambassadeurs. Et ce dessert qui est un pain rassis, qui est ensuite arrosé de sirop longuement, rôti, arrosé de sirop, nappé de crème et de pistache, donc encore, vous allez encore avoir faim, s'appelle Aish Saraya. Aish veut dire la vie du sérail, et en réalité veut dire le pain du sérail. Moi, j'aime beaucoup toutes ces histoires où on comprend d'où vient le plat par les mots, par le voyage des mots, et comment, finalement, comme c'est un pain différent, ce dessert n'aurait jamais pu être créé avec les pains moyen-orientaux et les pains égyptiens. Il a fallu le voyage d'Europe, pourquoi les voyages c'est utile parfois, le voyage d'Europe en Égypte, des ambassadeurs égyptiens, de leurs cuisiniers, pour faire un pain qui ensuite est devenu un dessert de tout le Moyen-Orient, un dessert mythique du Moyen-Orient.
Et magnifique d'ailleurs, je crois que vous m'aviez montré une photo de ce dessin en attendant de le faire goûter.
C'est tout blanc et tout beau.
Donc on vous la mettra bien sûr sur la page du Goût du Monde, cette photo. Alors on commence à parler un petit peu de dessert et de pain rassis, le pain perdu forcément.
Alors le pain perdu, oui.
Bah, on l'a retrouvé.
On le met partout. Il est partout. Il est devenu, alors peut-être moins maintenant, mais à un moment, il était... En fait, étrangement, je pense que c'est quelque chose qui, en France, a eu sa période. Il y en a moins aujourd'hui, peut-être dans les restaurants. Mais il s'est développé partout dans le monde. Et d'ailleurs, il s'appelle pain perdu en français, dans tous les pays, que ce soit dans les pays orientaux, que ce soit dans les pays anglo-saxons, tout le monde fait pain perdu, avec des recettes plus ou moins différentes, plus ou moins riches. Je sais qu'aujourd'hui, certaines personnes n'utilisent plus d'œufs dedans ou de lait parce que...
Oui, parce que c'est pas une recette qui est économique, puisqu'on peut y mettre du lait, des œufs, on peut également mettre du sucre, donc ça nécessite d'avoir plusieurs ingrédients.
Dans les restaurants, vous le retrouvez avec une boule de glace, avec plein de choses. Mais bon, on peut plus ou moins limiter, mais c'est vrai que pour faire un dessert, généralement, c'est sucré. Donc, on va trouver le moyen d'humecter ce pain-là. Alors, généralement, c'est avec un peu de lait et du sucre. Et puis, de le rendre intéressant, c'est-à-dire de garder ce moelleux à l'intérieur, croustillant de l'extérieur. Donc, en le faisant poêler avec ou sans œuf, avec beaucoup de beurre, c'est gras, c'est dessert. Mais il faut du pain qui soit un peu rassis. Ce qui me fait penser
sinon,
à quelque
ça
chose.
Marche pas.
Il me fait penser à quelque chose. On n'en a pas parlé. Je suis désolé, je passe du sucré au salé, mais alors là, je me dis, c'est pas possible de pas en parler. C'est la fondue savoyarde. En fait, on peut pas manger une fondue savoyarde. Ça m'est arrivé plein de fois. Moi, je suis là, j'achète tous mes trucs, je me dis superbe, je vais faire une fondue ce soir.
Donc une marmite de fromage, c'est très élaboré. Voilà. Chacun a son pic. Et donc, au bout de ce pic, il y a un pain donc rassis, un peu sec quand même, qu'on prend dans le fromage.
Et s'il est tout frais, le pain, ce qui m'arrive plein de fois. En fait, à chaque fois que je fais une fondue savoyarde, à 17h, j'ai mes pains, je suis content et je me dis, oh, ils sont pas rassis, donc ça va se casser à l'intérieur et c'est terrifiant. Et donc d'un coup, vous êtes là à trouver des manières de faire rassir plus rapidement le pain, mais c'est pas du pain sec.
L'englobage est sec, mais l'intérieur doit être encore un tout petit peu mieux.
Voilà, et donc on voit bien comment il y a des recettes qui ont besoin impérativement de pain rassis. Alors le pain perdu, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il faut pas que ce soit un pain totalement frais parce que ça ne donne pas. Vous avez beau essayer, ça ne marche pas.
Le goût du monde. Clémence de Navi. Next year in Grover, like to the poor people, no school, no water, corruption in the office, the system make color, everybody make water, we don't trust blue collar, bring one dollar, can you ever call me the suffer, take a look at me, I'm no bugger, no go play door, never, my eye red, I didn't want job some, people they my coolie, they didn't wanna, go go, see, I didn't dodge them, back door money, they didn't chop up, oh, 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 oh.
Sur RFI, dans le goût du monde, vous nous rejoignez. Bienvenue à tous avec Karim Aïda. Nous émiettons, tostons, grillons, redonnons vie au pain sec et dur, au pain rassis. En fait, on va lister sur la page de l'émission la plupart des recettes dont on aura parlé aujourd'hui. Et puis évidemment, on vous donnera des recettes également qu'on puisse partager tout ça. On parlait, alors, bien sûr, la fondue à l'instant. Et on va revenir un petit peu vers une chose un peu sucrée. Et surtout, au pain comme un ingrédient qui va également apporter de l'épice, apporter du goût. Au tout début de l'émission, j'ai parlé du pain comme étant de l'or. C'est une expression en fait que j'ai empruntée à Massimo Bottura, qui est un chef cuisinier qui a ouvert et inventé un concept qui s'appelle le Refettorio. C'est un restaurant en fait où on accueille des exclus de la société, des gens en précarité, qui viennent manger dans un endroit du très bon, dans de très beaux environnements, donc du bon, du beau, mais fait avec des invendus alimentaires très souvent. Et à la base, il y a le pain qui est l'ingrédient majeur. Je vous propose d'écouter Solène Gaillard et ses utilisations folles du pain.
C'est quoi Solène pour les pains ? Tu peux le passer au four ? On va me remodifier, mais normalement l'idée ce serait de faire un tiramisu à la fraise et remplacer le biscuit n'importe, ça peut être spéculoos, un gâteau breton. Mais là du coup on va le remplacer par une chapelure de pain qu'on va griller et qu'on va mixer avec de la vanille, du sucre de coco. Voilà, avoir quelque chose d'assez gourmand, mais avec le pain, ça permet de redonner une seconde vie. C'est une bonne matière première, en tout cas, pour essayer de l'innover et d'essayer de le transformer un maximum pour éviter les pertes. Parce que voilà, c'est vraiment notre matière première qu'on a et qui ne nous manque jamais. Voilà, moi, en tout cas, j'adore ce pain qui est devenu comme une épice, en fait, que j'utilise, que j'agrémente. Et puis, je fais des mélanges vraiment d'épices à base de pain qui aujourd'hui permettent de changer vraiment un plat.
Puis il peut avoir toutes les textures.
Oui, il a cette capacité à vraiment se révéler quand on le grille. Moi j'adore vraiment le côté torréfié, c'est pour ça que je le rapproche plus d'une épice. Voilà, frais, on l'utilise à table, mais sinon vraiment grillé et puis après transformé avec des épices, puis repoiler avec peut-être un beurre noisette. Enfin, voilà, c'est... Je peux en parler pendant des heures du pain, en tout cas.
Solène Gaillard, donc, qui était sous-chef au restaurant Refettorio à Paris. Ce qui est incroyable, c'est quand on la voyait, on l'entend dans sa voix d'ailleurs, elle a les sourires dans les yeux, un grand sourire. Il y a cette espèce de passion pour cet ingrédient qui se révèle complètement. Et partout, c'est le champ des possibles avec le pain sec est infini, Karim Haïdar.
Tout à fait. Et de réaliser à quel point on peut faire des choses et utiliser ce pain. Et derrière, je pense qu'il y a plein d'autres idées qui surgissent sur l'usage de plein d'ingrédients. Et je sais pas, moi, ça m'emmène quelque part dans la manière dont nous avons consommé pendant très très longtemps, finalement sans vraiment faire attention à beaucoup de produits, dont ceux-là. Et c'est bien que certaines personnes et l'émission aujourd'hui viennent nous rappeler tout ce qu'on peut faire avec cet ingrédient. Alors, je sais qu'il y a des gens pour qui le pain est fondamental, est au centre de leur cuisine. Mais il y a beaucoup de gens pour qui, je crois, le pain est un peu le laissé pour compte. D'ailleurs, on mange de moins en moins de pain, comme si c'était un produit finalement de peu d'intérêt, de peu de valeur. Et de le remettre comme ça au centre de la cuisine, à la fois comme ingrédient, comme usage,
comme
trouve ça merveilleux.
Je trouve ça formidable d'arriver à en faire une chapelure dont on va parsemer les plats, qu'ils soient salés, qu'ils soient sucrés. On peut vraiment s'en servir comme un poivre, un sel. D'ailleurs, Adriano Farano, dans son livre sur le pain rassis, raconte qu'il y a certains moments où cette chapelure-là est utilisée aussi bien que le sel ou le poivre.
Oui, on utilise beaucoup la chapelure. Mais en fait, même quand on utilise la chapelure, c'est-à-dire avant que vous me parliez de cette émission, je ne m'étais jamais dit, tiens, la chapelure, c'est l'usage d'un pain rassis. Voilà, je ne me suis jamais dit ça. Je me suis dit, c'est de la chapelure, je sais que c'est du pain, mais ça s'arrêtait là. Et je trouve que la prise de conscience permet de faire évoluer les choses, de montrer tout ce qu'on peut faire dedans. Et tout le monde utilise la chapelure pour je ne sais combien de choses. Et bien sûr que c'est un assaisonnement, la chapelure. Bien sûr.
Karim, depuis le début de cette émission, on transforme ce pain rassis. Mais j'ai reçu sur WhatsApp un message, un petit grain de sel de Leïla Marachli-Rib, qui m'a laissé donc ce message. Elle a fondé l'association Le Monde à portée de pain, qui organise des ateliers et des rencontres autour des pains du monde.
Bonjour Clémence, je trouve que se préoccuper du pain rassis est topissime. Partager sur mille et une manières de le recycler, c'est vraiment une idée formidable. Pour autant, je pense qu'on peut aussi se poser la question de comment faire en sorte qu'on ait moins de pain rassis à recycler. Et là, je voudrais juste partager sur quelques constats qu'on fait au sein de l'association Le MAP, Le Monde à portée de pain, qui organise des ateliers de fabrication de pain et qui met à l'honneur des pains du monde et ceux qui sont derrière, ceux qui savent les faire, ceux qui veulent partager leur savoir. Ce qu'on constate, c'est que quel que soit l'endroit d'où on vient, globalement, jeter, c'est mal. Économiquement, c'est stupide. Symboliquement, c'est mépriser toute une chaîne de valeur, tout le travail des hommes sur toute la chaîne de fabrication de cet aliment universel et très symbolique. Éthiquement, c'est pas terrible. Symboliquement, c'est encore pire. Religieusement, parfois, c'est condamnable. Sur le plan de la superstition aussi, on peut entendre que ça peut porter malheur. Enfin bref, on ne jette pas la nourriture et encore moins le pain. Le deuxième constat qu'on fait, c'est qu'en fait, il y a vraiment plein de moyens de moins générer de pain rassis. Déjà, quantitativement, en évaluant un petit peu mieux ses besoins et en limitant ses achats, en anticipant par rapport au pain qui va rassir, en le mettant à congeler, on génère moins de pain rassis. Il y a aussi qualitativement qu'on peut agir. Il y a des pains qui se conservent beaucoup mieux que d'autres. Je pense par exemple à un pain qu'on nous a fait découvrir il y a quelques semaines qui s'appelle le rugbrod, qui est un pain suédois qui est plein de graines. Et alors celui-là, il se garde sans problème pendant 15 jours, ce qui est assez miraculeux. Donc voilà, quelques petits partages sur notre expérience pour recycler son pain rassis.
Leïla Marachli-Rib, Le Monde à portée de pain, on vous donnera évidemment les références pour découvrir cette association. Évidemment, moins on en a, en définitive, c'est peut-être ça le début de la préservation et de... Qu'en pensez-vous ?
Plus on fait attention, bien sûr, et plus on a du pain qualitatif.
C'est la destination première, et c'est ce que vous disiez au début. C'est pas de faire du pain rassis.
Mais de l'autre côté, c'est vrai que toutes ces recettes-là sont assez tentantes et qu'il y a des fois où on n'a pas d'autre choix pour faire une recette qui a été créée. Parce que justement, avoir trop, acheter trop, ne pas consommer au bon moment, c'est peut-être pas très bien. Mais si finalement on le réutilise après, c'est très bien. ça ne pose pas de problème. Le problème, c'est quand on achète plein de choses et qu'elles finissent à la poubelle.
La surconsommation. Et
voilà. Mais l'usage raisonné, en fait, du pain. Mais encore une fois, comme ça a été dit par Leïla, c'est-à-dire en achetant notamment du pain qui tient peut-être plus longtemps, en fonction de sa consommation. Après, la personne qui mange une baguette dans la journée, elle a qu'à acheter la baguette, même si elle tient qu'un jour ou deux, peu importe, puisque elle va la consommer directement. Mais pour les autres, justement, à la fois dans l'achat, dans la consommation, mais le cycle passe par le recyclage et l'usage du pain rassis et du pain dur. Et il est facile à utiliser. Il faut finalement, pour faire simple, parce que bien sûr, on peut faire des choses complexes, on peut mixer, entrer dans des desserts, etc. Ça implique un certain savoir-faire, ça implique du temps et tout.
Pain.
Voilà. Mais on peut aussi tout simplement se dire qu'il y a le moyen le plus simple et c'est très bon. Il suffit d'avoir une assiette creuse ou un bol, un bouillon, vous mettez le pain au fond, vous versez le bouillon dessus, vous attendez un peu et vous mangez. Et c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Hein.
Vous savez, Karim Haïdar, que le pain se boit.
Non. Mais je sens que je vais le
savoir. Le pain rassis se boit. C'est dans les pays de l'Est de l'Europe, en Ukraine, en Russie aussi, traditionnellement, avec du pain de seigle, on le laisse fermenter. Et ça donne une boisson qui s'appelle kvass, et que l'on boit encore. Et là, on boucle notre histoire de pain qui est né, puis que l'on a rassis, puis qu'on a mangé à nouveau. En Mésopotamie, le premier pain, il se buvait également, comme une bière de pain. Leïla pointait aussi, quand on achète, autant être sobre si possible, et puis évidemment se tourner peut-être vers de nouveaux pains avec des céréales, avec aussi des farines qui permettent de se conserver davantage, plus que la baguette blanche en tout cas.
Donc, voilà. Elle a tout à fait raison. Il faut, au-delà de tout, ça c'est un principe dans l'alimentation en général, il est très important de varier, de ne pas manger toujours le même produit. Alors c'est important pour deux choses, c'est important pour la santé, paraît-il, mais c'est important aussi pour conserver le goût. C'est-à-dire le fait de manger tous les matins le même morceau de pain avec la même chose dessus, je pense que quelque part, on finit par perdre... Il y a des bouts de papilles qui doivent... C'est comme ça que je l'imagine, qui doivent se dire, mais au fond, moi, je suis pas... On m'attend pas, on m'utilise pas, je vais m'en aller, je vais faire autre chose, je vais aller dormir et faire la sieste définitive. Et donc, je pense qu'il faut justement acheter des pains différents, qui ont des goûts différents, se surprendre tous les jours. Et si on a la chance d'avoir d'autres personnes que soi à la maison, eh ben, il faut acheter des pains différents sans dire aux autres... Et quand ils sont en train de manger, vérifier s'ils sont encore capables de se dire « Tiens, c'est quoi le pain aujourd'hui? Pourquoi il n'est pas pareil ?»
Il ne reste plus une miette de notre pain rassis. Nous l'avons mangé, dégusté. Vous nous donnerez peut-être une recette de ce pain du sérail.
Avec plaisir, même plusieurs recettes, si vous voulez.
D'imbouraké, de la soupe, je vous promets, plein de recettes sur la page du Goût du Monde. Vous pourrez vous servir et prendre ce qu'il vous plaît. Merci beaucoup, Karim Haïdar.
Merci, Clémence.
Alors, la boutique Les Mots et le Ciel se trouve au 81 rue Olivier de Serres. C'est dans le 15e arrondissement à Paris. On peut y trouver donc une table au déjeuner, une table d'hôte le soir, aussi des livres, une épicerie et même des cours de cuisine si vous êtes intéressé. En deux mots, c'est assez indispensable comme endroit si vous aimez le pain, les voyages. Je vous propose de réécouter l'émission qu'on avait fait ensemble sur cette histoire et ce voyage du pain dans le monde arabe. Sur la page du Goût du Monde, donc les recettes dont nous avons parlé aujourd'hui. Si vous voulez partager, vous, vos recettes, un numéro 336 43 16 15 66, sur les réseaux sociaux aussi, en commentaire sur la page, sur rfi.fr. Abonnez-vous au podcast pour ne pas perdre une miette du Goût du Monde. Et dites-nous eh bien, de quoi vous avez faim, parce qu'on en est curieux. Merci beaucoup à Cécile Bonissi qui a réalisé et mis en onde cette émission. Merci à elle et merci à vous d'être fidèles au poste. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même table, même heure.
Géopolitique, le débat.